Bonjour à tous, quatrième semaine déjà à parcourir l'été et l'actualité culturelle qui l'anime. À 13h50, François Sureau longera la Seine et fera son entrée dans Paris, devant le lycée Condorcet où il évoquera l'actrice Isabelle Adjani. Mais avant cela, nous allons parler de l'Amérique des armes et d'une de ses légendes, Chris Kyle, officier d'élite des SEALs d'Irak, dont la légende fut portée au cinéma par Clint Eastwood dans American Sniper. Dans le roman graphique L'homme qui tua Chris Kyle, aux éditions d'Argo, Bruno et Fabien Nury, se sont emparés de l'histoire américaine, racontant les batailles sur Fox News, les best-sellers et les retentissements politiques. En arrière-fond, l'Amérique du rodéo, des westerns, des armes, un imaginaire incarné par ses dirigeants actuels et sur lesquels les bédéastes posent un regard critique. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, jusqu'à 14h, en compagnie de Fabien Nury, du politologue Didier Combeau et de la critique de cinéma Juliette Goffard. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors je précise, Didier Combeau, que vous êtes politologue spécialiste des États-Unis, chercheur associé à l'Institut des Amériques et auteur de l'ouvrage « Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis », mais aussi « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». Et Juliette Goffard, vous êtes responsable des pages cinéma de la revue Études et critique cinéma pour Sofilm. Alors merci à tous les trois d'être ici. On revient sur cette histoire de Chris Kyle et Fabien Nury. Peut-être quelques mots sur ce projet avec Bruno d'en faire un roman graphique avec un point de vue français, en tout cas le vôtre, qui est aussi documenté, qui est un point de vue à la fois subjectif, mais aussi celui presque d'un documentariste.
C'est un documentaire. J'ai déjà fait quelques fictions historiques, des histoires basées sur des faits réels, sur la mort de Staline, sur Il était une fois en France. Mais cette fois-ci, c'est un documentaire. Je n'ai pas inventé une ligne de dialogue. Et dès que je l'ai pu, j'ai retranché mes propres textes pour les remplacer par les documents eux-mêmes. Cette fois-ci, ça n'était pas la même règle. Quand je fais une fiction historique, j'ai le droit de condenser, d'extrapoler, de simplifier et de décaler, par exemple, des dialogues. Ces dialogues sont réels, mais ils n'ont pas été dits à cet endroit. Là, c'était d'autres règles. C'était vraiment les règles du documentaire qu'on a appliqué.
Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se sert de divers matériaux, des interviews, des extraits vidéo, des extraits de presse ?
On cherche le plus longtemps possible, on cherche les documents les plus rares et les plus précis possibles. On fait un tri dans une affaire qui est incroyablement documentée, évidemment, elle est moderne et elle a été amplement médiatisée. Mais surtout ensuite, on admet ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. On essaye de confronter les informations, de les confirmer, et on exprime son point de vue par le tri des informations et non par une reformulation.
Alors on va prendre pour modèle cette histoire-là, peut-être raconter quelques mots de l'histoire de Chris Kyle. Héros de l'Amérique d'un point de vue du pouvoir politique du moment, hein, c'est légende de la guerre d'Irak.
Voilà, c'est une histoire que j'ai découverte comme tout le monde avec la sortie d'American Sniper de Clint Eastwood, que je n'ai pas vu à sa sortie, qui a été un triomphe commercial aux États-Unis.
Moins en France.
Et critique, moins dans le reste du monde, de façon générale. Les résultats internationaux du film par rapport à son triomphe national américain ont été décevants. Moyennant quoi, ça reste probablement, je crois, le plus grand hit commercial de la carrière de Clint Eastwood à cette date. Et c'est une carrière qui ne manque pas de hits commerciaux.
Alors, Chris Kyle.
Chris Kyle lui-même était donc un Navy SEAL. C'était le...
Pardon, un Navy SEAL, c'est les officiers d'élite, hein, qui ne sont pas tout à fait des Marines, qui sont l'élite de l'élite, en fait.
Exactement.
De l'armée américaine.
C'est les combattants suprêmes. Alors, il y a plusieurs corps d'élite, mais les Navy SEAL en sont un. Je crois que c'est les Navy SEAL qui ont tué Ben Laden. C'est une autre équipe que celle de Chris Kyle, mais je crois que c'est eux. Chris Kyle, lui, il est recordman du nombre de tués de l'histoire militaire américaine en tant que sniper. Alors, recordman, qu'est-ce que ça veut dire ? Chris Kyle a, en zone de combat, abattu 160 donc ennemis cibles, confirmés, c'est-à-dire devant témoins. Et on lui attribue 95 tués de plus, mais qui ne serait pas confirmé. Ce qui fait de lui, puisqu'il paraît qu'il y a un score
un décompte,
qui est tenu,
hein, oui.
un décompte qui est tenu, et ça fait de lui, pardon, le recordman, le sniper le plus mortel de l'histoire militaire américaine.
Alors là, on va peut-être...
La base de sa célébrité, c'est ça.
Alors, on va peut-être rebondir sur cette question avant d'avancer dans l'histoire. Didier Combeau, c'est une Amérique qui à la fois convoque l'imaginaire, alors là, texan, puisque c'est l'origine de Chris Kyle, du rodéo, du western. On a tout du héros américain qui se joue dans la continuité des pionniers, mais qui finalement représente une Amérique, on pourrait dire, réactionnaire.
Oui.
En tout cas, très marquée politiquement.
Marqué politiquement, ça très certainement, puisque les républicains, d'une manière générale, ou les gens qui sont à droite vont être plus favorables aux armes à feu, et puis les gens qui sont à gauche, plus favorables au contrôle des armes. Mais ça, c'est quand même assez général, hein. Si on prend quelqu'un comme, par exemple, si on prend quelqu'un comme Sanders, qui est très à gauche sur l'échiquier politique, il s'est quand même déclaré en faveur du Second Amendement, parce que son électorat, qui est un électorat blanc de couche, enfin en partie, hein, de couche moyenne inférieure, ce sont des gens qui sont très favorables aux armes à feu. Donc c'est quand même plus compliqué que ça. Mais ce qui est certain, c'est que les armes sont extrêmement symboliques pour une certaine partie de l'Amérique, parce que c'est la petite parcelle de pouvoir qu'ils ont en main, de pouvoir politique. Parce que si les Américains ont droit aux armes à feu, c'est aussi parce qu'ils ont le droit de prendre les armes contre un gouvernement qui leur apparaîtrait tyrannique.
Alors, considéré comme une liberté en réalité, Didier Combeau, ça fait partie, dans le second amendement des Bill of Rights, c'est une partie de la liberté individuelle qui passe par les armes.
Tout à fait, de la liberté individuelle, mais aussi de la liberté politique. Donc c'est très important, parce que les armes...
C'est celle de l'insurrection, c'est la liberté de l'insurrection.
Le droit à l'insurrection. Et d'ailleurs, on le voit, ces temps derniers, c'est arrivé assez souvent qu'il y ait des manifestations avec des gens qui arrivent en armes. Ils n'arrivent pas en armes pour s'en servir, nécessairement. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils ne s'en sont pas servis. Même à Charlottesville, où il y a eu une personne tuée, elle n'a pas été tuée par arme à feu, elle a été tuée par une voiture. Donc ils ne s'arment pas nécessairement pour se servir des armes, heureusement, mais ils s'arment pour montrer qu'ils sont armés et que donc ils sont citoyens américains. Ils ont cette liberté politique et c'est ce que ça veut dire.
Alors là, vous faites allusion peut-être à ce qui s'est passé dans le Michigan avec justement l'invasion du Capitole par un certain nombre de citoyens armés revendiquant.
Voilà, qui
cette liberté.
Alors, c'était une manifestation contre le confinement. Hein,
contre le confinement.
Dans le cadre de la Covid-19. Et effectivement, ils sont venus en armes parce que c'est une sorte de déclaration politique de venir en armes. C'est pas que c'était nécessaire. Ils auraient très bien pu manifester sans être armés. Il n'y avait pas de besoin véritable d'être armé. Mais c'est une déclaration d'identité américaine et de positionnement politique également.
Alors peut-être qu'on va préciser cette question d'orientation politique en ce qui concerne Chris Kyle, on a affaire quand même à un personnage républicain, tout le monde le sait, défendant la NRA, enfin il y a tout cet imaginaire autour des armes, c'est aussi le rodéo, c'est un champion de rodéo. On a toute l'imagerie quand même du western qui est convoquée.
Oui, l'imagerie du western et puis de l'américain viril. Ça, d'ailleurs, quand on regarde le film, son épouse plusieurs fois lui demande de ne pas retourner en Irak et lui, c'est son devoir, il y retourne. C'est un thème qu'on trouve très fréquemment dans les westerns également.
Et il est chrétien, il le dit, le romantique.
Il est chrétien, effectivement. Et puis, il considère que la violence est une solution à la violence. C'est d'ailleurs le slogan de l'entreprise qu'il a monté après être venu d'Irak.
Hein, c'est une société de sécurité privée.
C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il dit « Contrairement à ce que votre mère vous a enseigné, votre mère, pas votre père, hein, contrairement à ce que votre mère vous a enseigné,
parce que l'éducation, c'est la
violence
mère, hein,
c'est... résout les problèmes. »
Ouais, c'est encore cette idée.
Et donc, il y a quelque chose de genré également. Donc, effectivement, c'est ce un point de vue que l'on situe plutôt à droite habituellement.
Alors Juliette Goffard, on retrouve à travers cette histoire du cinéma, on parlait de Clint Eastwood, American Sniper, et en même temps, on a le sentiment de retrouver toute l'histoire du cinéma américain, et en premier lieu, l'esthétisation des armes à travers le western. Alors comment est-ce que vous qualifieriez les choix d'American Sniper, les choix esthétiques, notamment de Clint Eastwood?
Alors là, pour rebondir sur sur ce que Monsieur Combeau vient de dire. Effectivement, dès le début du film, il y a vraiment cette notion de virilité qui est extrêmement forte, je trouve. Hein.
La camaraderie.
Oui. Et puis même, vraiment, l'arme est au centre de la mise en scène et elle va très vite être associée à la. En tout cas, dans le cinéma d'Eastwood, elle est associée à la fierté virile, en fait. Et il y a plein de films d'Eastwood qui commencent avec des personnages qui, après avoir été humiliés, après avoir été blessés, vont prendre l'arme. Par exemple, je pense au début de José Wales, Hors la loi, ou au début d'Impitoyable, le personnage retrouve sa fierté, sa virilité en saisissant l'arme et en décidant de passer à l'action vengeresse en général. Donc l'arme, en fait, elle est aussi assez facilement liée à l'idée de self-defense et de faire justice soi-même. C'est vrai qu'il y a cette notion de justicier, effectivement, de ne pas attendre l'État pour passer à l'action meurtrière. Et ça se retrouve aussi dans American Sniper, à la fin notamment. Je pense à cette scène dans le champ de tir où le personnage de Chris Kyle va aider les vétérans à s'en remettre. Et comment est-ce qu'il aide les vétérans à s'en remettre? Eh bien, en prenant l'arme. Et on a ce personnage handicapé qui apprend à viser et qui dit « Ah, ça y est, j'ai retrouvé mes couilles ».
Oui, d'ailleurs, il y a toute une histoire américaine à travers les armes, hein, qui c'est un des best-sellers aussi de ce film. Je vous propose d'écouter American Sniper, un extrait, le début.
Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. She's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid.
You say a woman and a kid.
You got eyes on this? Can you confirm?
Negative. You know the ROV. Your call.
Man, they fry you if you're wrong. They send your ass to Leavenworth.
You got it.
Alors on entend Juliette Goffard le début, hein, c'est cette scène inaugurale avec le premier moment où Chris Kyle est devant son objectif de sniper et devant son objectif, il y a une femme et un enfant qu'il va tuer. Toute la question de la violence et de la violence pour le patriotisme qui est mis en avant à chaque fois avec l'idée de défendre son pays, commence par une scène extrêmement dure et en même temps, on la revisite à travers le souffle, à travers l'œil dans l'objectif. Il y a une grande esthétisation de ce moment qui est vécu comme un moment de sang-froid du sniper.
Oui, exactement. En fait, toute la mise en scène d'Eastwood fait corps avec le sniper. Il y a une subjectivité très forte qui fait que justement, on questionne pas trop cette violence-là parce qu'on est complètement dans cette subjectivité-là.
Convaincu de la cause, en réalité.
Voilà, on est convaincu de la cause. Et ce que je trouve effectivement très très surprenant, enfin, ce qu'on peut trouver très surprenant, c'est ce, même si c'est assez classique quand même dans le cinéma de western, voire de guerre, c'est ce raccord avec la chasse qu'on entend à la fin de notre extrait, bien sûr.
Où c'est le fils de Chris Kyle qui, plus tard, va se mettre à chasser. Et c'est cette scène-là qu'on voit. Hein.
C'est lui quand il était enfant.
C'est que l'on voit à la chasse.
C'est ça. Et donc, ce souvenir de chasse est mis en parallèle de ce moment où Chris Kyle va quand même viser un enfant et faire son rôle de jouer son rôle de sniper pour la première fois en Irak. Je crois bien que c'est sa première...
C'est sa première cible. Hein,
c'est particulier. C'est une scène qui n'est pas dans le livre de Chris Kyle, mais qu'ils ont rajouté dans le film, car selon Chris Kyle, elle se serait déroulée. Elle avait été coupée du bouquin, dans lequel il y a pourtant pas mal d'extrapolations, voire d'inventions pures. On pourra y revenir. Le bouquin, c'est la légende. Et Eastwood et son scénariste et ses producteurs ont déterminé que c'était une scène très intéressante, tout à fait propice à mettre en scène l'abominable dilemme moral du sniper, tout en offrant un moment de divertissement des plus accrocheurs.
Alors là, Didier Combeau, on s'arrache quand même un peu les cheveux parce que le spectateur français qui assiste à la scène du meurtre d'un enfant, même s'il porte une arme ou si sa mère lui donne une grenade, etc. On a du mal à imaginer cette scène-là avec un raccord sur la chasse et on tue le gibier. Et pourtant, cette scène-là n'a pas fait scandale aux États-Unis, à ma connaissance.
C'était le teaser du film.
Sur le fait qu'il s'agisse d'un enfant, effectivement, c'est quelque chose qui rend la scène très forte et qui a un intérêt dramatique, hein, dans le cadre du film. Ce lien avec l'usage des armes, l'usage civil des armes est très intéressant parce que on voit là une continuité entre l'usage des armes pour la chasse et l'usage des armes militaires. Et entre les deux, il y a l'usage des armes pour l'autodéfense. Donc il y a une continuité dans tout ça. Et ce que disait Juliette Goffard tout à l'heure, le fait que la réhabilitation des anciens Marines à laquelle ils participent, des anciens Marines qui sont atteints de PTSD, hein, de syndrome
post-traumatique, comme les vétérans du Vietnam ont leur temps d'ailleurs,
se fait sur les stands de tir, parce que les armes sont aussi un lien social aux États-Unis. C'est ce qu'on a du mal à imaginer. C'est que beaucoup d'Américains vont sur les stands de tir et c'est une sortie souvent entre hommes, quelquefois familiale également. Et donc c'est aussi un lien social. Et donc il y a une sorte de continuité entre l'aspect civil, l'aspect social et l'aspect militaire.
Fabien Nury, on a le sentiment, alors vous en tant que Français, vous prenez ce point de vue-là, vous racontez une Amérique qui a un fonctionnement assez lointain du point de vue des armes, en tout cas de ce qui existe dans la législation française et européenne de manière plus générale. Et cette Amérique-là, vous la racontez aussi à travers les parutions de livres et son histoire médiatique, pas n'importe laquelle, Fox News, donc un parti pris assez fort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement du moment où vous êtes emparé de cette histoire en vous documentant et en vous disant, voilà, je livre à la fois une histoire réelle, un fait divers et un point de vue.
Alors voilà, mon point de vue n'est pas spécialement militant. Et pour moi, les armes sont une partie du sujet. Le sujet du livre, c'est la fabrication d'une légende en Amérique.
C'est le héros.
C'est
et l'anti-héros.
C'est la légende, véritablement la légende. C'était d'ailleurs son surnom. Chris Kyle s'appelait la légende. Et je suis fan de western. Accessoirement, je suis fan d'Eastwood. Donc, comme tout le monde, je connais la phrase de Ford. On est dans l'Ouest ici. Quand la réalité devient légende, on imprime la légende. Et donc, ce qui m'intéresse profondément, c'est de dire que cette phrase, pour sublime qu'elle soit, certes, la légende est nécessaire au roman national, mais la vérité aussi. Et c'est bien ce que nous dit Ford. Et est-ce que, 120 ans plus tard, ça n'est pas devenu les fake news? C'est ça qui me pose question profondément.
Alors, donc, plus précisément, la légende nourrit par elle-même, puisque Chris Kyle va écrire sa propre légende.
Exactement. C'est là qu'on est dans le pur western et dans le rapport mythologique.
Comme on fait d'ailleurs les shérifs, par exemple, de la fin du 19e siècle, ont écrit eux-mêmes leur propre légende.
Wyatt Earp.
Collaboré avec Hollywood, d'ailleurs.
Wyatt Earp, Jesse James, étaient des célébrités de leur vivant. Mm-hmm. Et donc, pour moi, ça me saute aux yeux que cette affaire Chris Kyle, donc il faut quand même le préciser, Chris Kyle a été assassiné sur un champ de tir par un marine traumatisé qui n'avait jamais tué personne de toute sa carrière militaire et qu'il essayait d'aider à se requinquer en lui faisant défourailler sur des cibles. Moyennant quoi, Eddie Ray Rouse, marine traumatisé, a abattu la légende. C'est ça le
fait. Il est devenu légende lui-même de par ce fait, d'une certaine manière.
Non, il est devenu le lâche Bob Ford. C'est-à-dire que c'est évident que Chris Kyle, c'est Jesse James. C'est l'ancien soldat, c'est l'icône du vieux Sud, c'est le tueur exceptionnel et célèbre de son vivant, c'est le visage romantique, c'est le brigand bien-aimé, c'est le grand guerrier. Et vous avez le lâche Bob Ford. Et à partir de là, vous avez une mise en scène possible de toute l'histoire de l'Ouest. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que Eastwood, il connaît le brigand bien-aimé et l'assassinat de Jesse James et I Shot Jesse James de Fuller. Il connaît mieux que moi et mieux que tout le monde tous ces westerns-là. Mais il a fait Sergent York. Sergent York n'est pas un western. Sergent York est un film de guerre et de propagande fait par Howard Hawks en 1940 pour convaincre le peuple américain d'affronter les nazis. Et il a choisi le biopic de Chris Kyle en comparaison avec le personnage de Gary Cooper dans Sergent York. Il l'a dit lui-même, et je crois sincèrement que Eastwood est beaucoup plus un fan de Howard Hawks que de John Ford d'ailleurs.
Alors peut-être quelques mots sur ce sujet, Julie Goffard, sur le cinéma de Clint Eastwood, son allusion justement au western, en l'occurrence ça n'est pas un western, American Sniper, et en même temps le parti pris est très clair, dès la première scène.
Ah oui, tout à fait. J'aimerais bien rebondir sur effectivement la proposition de Fabien Nury sur Howard Hawks. C'est vrai que notamment dans les scènes de bataille, il y a vraiment cette idée de se délimiter, de créer une frontière avec l'ennemi, de créer une forme de containment, et aussi de réussir à voir l'ennemi caché qui est toujours dans le hors-champ. C'est vraiment extrêmement présent dans les scènes de guerre d'American Sniper. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, il me semble, chez Hawks, que John Carpenter va reprendre. Je pense à cette scène très connue de Saloon, hein, dans Rio Bravo, où l'ennemi est invisible parce qu'en fait, il est caché dans les hauteurs. Et c'est le petit détail d'une goutte de sang qui tombe dans un verre de bière qui va révéler la présence de l'ennemi. Et justement, ça irrigue tout le American Sniper, cette vigilance, cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas. C'est vraiment le talent de Chris Kyle. C'est que justement, c'est ce chien de berger, toujours en alerte, qui a ce regard. Il y a plein de scènes dans American Sniper, je vais pas tout développer, mais vraiment les scènes où Chris Kyle voit le petit détail qu'il faut, qui permet de repérer l'ennemi qu'il faut contenir et ne pas laisser déborder jusqu'aux États-Unis, c'est extrêmement fréquent dans le film.
Didier Combeau, c'est aussi l'imaginaire de l'ennemi invisible, et c'est particulièrement propice à cet épisode-là de l'histoire américaine, qui est le post 11 septembre et la guerre en Irak, avec des débats un peu flous sur la question de l'invasion d'Irak.
C'est une vision assez simplifiée du monde. Hein. On a au début du film le père de Chris Kyle qui divise l'humanité en trois catégories, hein, les moutons, les loups et les chiens de berger. Donc c'est pas compliqué, c'est simple.
C'est assez manichéen, même s'il y a trois.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film, c'est un petit peu comme dans les westerns. Hein, les méchants ont l'air de méchants, et puis les bons, en revanche, il y a une franche camaraderie entre eux. On voit pas du tout dans le film de camaraderie entre les Irakiens, par exemple. Alors que il y a une forte insistance sur la camaraderie entre les Américains.
Alors pour vous faire plaisir, on va écouter quand même un extrait de western. Là, c'est L'homme qui tue à Liberty Valance, John Ford, en français.
Valance n'a pas réussi à te faire partir. Maintenant, qu'est-ce qui te force à le faire? Ta conscience?
Vous croyez que ce n'est pas assez d'avoir tué un homme? Il faudra encore que ça me serve?
Tout ça, c'est des mots. Rien que des mots. Ce n'est pas toi, d'ailleurs, qui a tué Liberty Valance.
Quoi?
Rappelle-toi ce qui s'est passé. Valance est venu à ta rencontre. Tu marchais vers lui et il a tiré une première fois en visant dans ta direction. Tu te rappelles, non?
Juliette Goffard, quelques mots sur L'homme qui tue à Liberty Valance, ce John Ford de 1962, classique des classiques.
Oui, bah effectivement, c'est l'une des grandes références aussi d'American Sniper, me semble-t-il. Donc Tom Doniphone, interprété par John Wayne, incarne vraiment le monde de l'Ouest, ce monde du passé de l'Amérique qui est en train de céder la place aux États-Unis, en train de se constituer, symbolisé donc par le personnage de James Stewart, Ransom Standard, qui justement, lui, ne veut pas régler les conflits par la manière forte, qui veut justement passer par les institutions, voilà, qui veut éliminer Liberty Valance aussi politiquement via des élections. Et En fait, effectivement, la scène qu'on vient d'entendre, c'est une scène de la fin. Alors là, on a un peu spoilé, mais c'est bien normal pour analyser le film. Ransom Stoddard pense avoir assassiné donc la brute Liberty Valance, qu'il a attaqué au début du film dans une diligence. Et en fait, c'est Tom qui s'est caché dans l'ombre et qui a tiré, effectivement, pour éliminer Liberty Valance. D'où le fait que cette fondation, toute cette carrière de Ransom Stoddard, eh bien, elle se fonde sur une imposture. Et donc, c'est ce qui fait la complexité de la réflexion de Ford, qui juxtapose un monde politique légaliste et puis ce monde du passé, ce monde de l'Ouest, à travers deux personnages.
Fabien Nury.
C'est une date charnière dans l'histoire du western. C'est
62.
62, c'est peut-être le dernier western de l'ère classique. On est juste avant, évidemment, l'arrivée de Léon, du crépuscule, et aussi du crépusculaire et du western révisionniste. Donc c'est vraiment une date charnière. C'est le moment où Ford, dont on peut dire qu'il a lui-même construit la mythologie westernienne, la met à bas. C'est un film de 1962, mais c'est un film en noir et blanc. C'est un film qui choisit une esthétique de film noir plutôt qu'une couleur westernienne. C'est un film qui, derrière le duel de légende, met en scène un assassinat de dos, dans l'ombre. Quelqu'un a tiré au fusil depuis une allée sur quelqu'un d'autre qui ne le voyait pas.
Alors justement, à ce propos, vous choisissez d'égrener le roman graphique de citations de western,
oui.
En variant. Il y a du Clint Eastwood, mais pas simplement.
Il y a d'abord Ford, et ensuite il y a toutes les réponses d'Eastwood à Ford.
Absolument. Et à travers ce découpage-là et cette imagerie du western, il y a une autre question qui est posée, c'est celle de la vie humaine, finalement. C'est-à-dire, selon qui tue et qui l'on tue, ça n'est pas la même chose.
La valeur des vies. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant, le début de cette conversation. On a pas mal parlé de ce cerf qui s'était fait flinguer à la chasse dans un merveilleux flashback. Alors, je voudrais quand même dire un truc. Chris Kyle n'était pas un meurtrier. C'était un soldat et un combattant. Bon, dernière nouvelle, il a jamais été inculpé pour crime de guerre, quel qu'il soit. En revanche, vous ne me ferez pas croire que les 160 Irakiens qu'il a abattus, confirmés, étaient tous des terroristes fanatiques. Certains étaient des Chris Kyle irakiens, des pères de famille et des combattants qui se battaient pour l'intégrité territoriale de leur pays. Il ne les connaît pas, il n'a jamais vu leur visage et ne connaît pas leur nom. Donc, prière de ne pas porter de jugement. Maintenant, moi, c'est ça qui m'a finalement le plus dérangé. Le record, c'est le sujet, c'est la raison d'être de la légende. C'est la raison d'être du livre et donc du film. 160. Combien de personnes sont tuées à l'écran par Chris Kyle dans ce film? Je les ai comptées. 16.
16, oui.
16 et un cerf. Pardon. 144
et
Irakiens
c'est à propos
morts
du cerf.
Font l'objet d'une ellipse.
Et c'est à propos du cerf qu'on dit, attention, retirer la vie humaine, ça n'est pas n'importe quoi. Alors ça, peut-être, ça mérite une petite aparté. Dites-moi, il y a la question de tuer une légende américaine, ce serait plus grave. Le héros et le anti-héros de la bande dessinée, en tout cas de Bruno et Fabien Nury, c'est d'un côté, retirer la vie à une légende quand on est soi-même un Marines traumatisé qui n'a pas tué au front. Là, il y a double crime, d'une certaine manière. On n'a pas le droit d'être traumatisé de guerre si on n'a pas soi-même tué.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est dit dans le film, oui. D'ailleurs, ou bien c'est dans la bande dessinée.
Oui, c'est dit dans l'album. On n'a pas le droit au PTSD si on n'a pas tué des gens, en gros.
Tout à fait, parce que apparemment, ce Marines n'avait pas participé au combat.
Il était armurier, il n'avait pas participé au combat, il avait assisté à des scènes de violence. Par contre,
au moment du tremblement de terre.
Donc il a vu des charniers, il a vu
traumatisé.
Il ramassait des bébés morts sur la plage. C'est ça qui l'a traumatisé.
Donc il est traumatisé.
Donc il n'a pas.
Mais il n'a pas le droit de l'être parce qu'il n'a pas tué d'ennemis.
Effectivement, donc ça n'est pas un héros américain.
C'est même un anti-héros d'une certaine manière.
Voilà, un anti-héros.
Il prétendait avoir tué pour séduire sa copine. J'ai déjà tué, je recommence. Il se sentait obligé de prétendre avoir tué. Je voudrais qu'on parle aussi de ça, notamment concernant Chris Kyle et les homicides inventés après.
Alors ça, on a du mal à comprendre, par exemple, que le décompte des morts tués par Chris Kyle joue en sa faveur. Hein, il dit qu'il a tué alors 160 soldats, puis il y a aussi la question de l'ouragan Katrina et comment il aurait assuré une protection finalement des civils. Alors comment est-ce que on peut imaginer que le nombre de morts joue en sa faveur?
Parce qu'il les a tués en quelque sorte dans son bon droit, puisque lui représentait les bons et eux étaient les méchants. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème. Parce que les amateurs d'armes et les gens qui défendent le droit aux armes expliquent toujours que la solution à un sale type armé, c'est un brave type armé. Les armes sont toujours leur propre antidote en quelque sorte. Et là, on est un petit peu dans ce cas-là. Hein, le sniper tire sur les Irakiens parce que les Irakiens sont des méchants armés.
Et accessoirement, il a un système de pensée tout à fait cohérent, Chris Kyle. Alors, Chris Kyle n'était absolument pas une brute stupide et fascisante, hein, faut quand même le dire.
Il apparaît comme un personnage intelligent, vous le dites, dans la bande dessinée.
Moi, il me semble que c'était pas un homme. Je suis en désaccord frontal avec l'intégralité de ses opinions politiques. Pour autant, je pense qu'il a tué des gens qui étaient probablement armés ou dangereux pour protéger ses camarades de combat. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait son job. Vous pouvez trouver, après, tout dépend de est-ce qu'on trouve cette intervention militaire justifiée ou non. Pour ma part, évidemment, non. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des assassinats, ce sont des actes de guerre, et etc. Donc ça je tiens à le dire parce que je veux pas vilipender le personnage, me paraît tout aussi idiot que l'encensé.
Mais la mort, voilà. La mort est au cœur quand même de oui. L'album.
Et il a dit la phrase la plus ahurissante de toute ma vie. Il a dit en interview télé, aucun de mes problèmes ne vient des gens que j'ai tués. Je ne peux pas.
Alors, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était lui-même.
Et là où il a raté la protection.
Et pourtant, si.
Pourtant, il était soupçonné d'avoir un PTSD lui aussi, hein, d'être lui aussi peut-être un traumatisé, mais une légende ne peut pas l'être.
En cumul, il a passé 3 ans en Irak, il a tué plus de 150 personnes, ça veut dire qu'il a tué une personne par semaine pendant 3 ans de sa vie. Donc, à mon avis, il y a de quoi être traumatisé. Et c'est terrible, d'ailleurs, Clint Eastwood l'a dit brillamment dans Impitoyable. Tuer quelqu'un, c'est quelque chose, on lui prend tout ce qu'il a et tout ce qu'il pourrait avoir. Voilà ce qu'a fait Chris Kyle. Il l'a fait 160 fois, au moins. Et ce type devient célèbre et est tellement écrasé par sa propre légende, l'intensité de son désarroi et de son désespoir sont telles que cet homme, dont les exploits, pardon, sont tout à fait authentiques, se sent obligé d'en inventer d'autres.
Et d'en rajouter.
Ça me passionne. Ce type a, je précise tout de même l'anecdote pour que les gens sachent de quoi on parle, ce type a raconté en public et dans des bars que après Katrina, il serait parti avec ses pétoires à la Nouvelle-Orléans, dans la Nouvelle-Orléans inondée, pour monter sur le toit du stade et flinguer des pillards. Il a revendiqué 30 pillards morts. C'est totalement stupide.
Alors là, on tombe sous le coup de la loi, Didier Combo, quand même. Là, on tombe sous le coup de la loi. On a du mal à comprendre. Et pas d'enquête ouverte. Hein.
Ça pose la question. Ça ne s'est pas passé. On le sait que ça ne s'est pas passé.
Ça pose la question de la justice. Les Américains sont souvent un petit peu sceptiques en ce qui concerne l'efficacité du système judiciaire. Et effectivement,
Se faire justice soi-même,
c'est quelque chose qui est relativement admis aux États-Unis, aux États-Unis. Vous pouvez, par exemple, dans la plupart des États, si un cambrioleur s'introduit chez vous, vous avez le droit de le tuer.
Oui,
même si vous n'avez pas de menace physique. Alors,
mais cette affaire Katrina reste un pur fantasme, pardon. C'est un pur fantasme. Il n'a jamais fait ça.
Et on le laisse alimenter la légende.
Je vous assure que si quelqu'un était monté sur le toit du Superdome et avait flingué 30 personnes, on l'aurait vu en hélicoptère et tout le monde serait allé voir qui est ce meurtrier de masse. C'est un fantasme de meurtrier de masse.
Alors pour revenir sur l'histoire américaine et l'histoire du PTSD, hein, des traumatisés de guerre, évidemment, ça fait référence et dans l'histoire américaine et dans l'histoire du cinéma aux traumatisés aussi de la guerre du Vietnam. Je vous propose d'écouter en carte blanche Le Voyage au bout de l'enfer, un extrait du film de Michael Cicino.
Steven, there's a call for you. Maybe it's from Angela.
Hello.
Steve, it's me, Mike.
Michael?
Hey.
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 How's things?
I'm okay. Never mind me. How are you?
Great. Great.
Hey, what's that noise? What?
Oh, wheelchairs.
What?
Hey, Stevie, when are you getting out?
I'm gonna stay here a while, Mike.
What for?
The place is great.
Huh?
It's like a resort.
No.
I mean, they got basketball, bowling.
What?
Princess Grace came to see us the other day. Michael.
Hey.
Hey.
Michael.
And I gotta go, Mike. I gotta go.
Curfew, man.
Stevie! Steve!
France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Un extrait donc du Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Qu'est-ce que l'on peut dire de cet extrait, Juliette Goffard? Il s'agit des vétérans, hein, de cette jeunesse qui a été brisée par le Vietnam, de leur retour. Il y a la violence physique, les stigmates de cette guerre et les souffrances psychiques des vétérans qui sont évoquées dans cet extrait.
Oui, exactement. Donc le personnage de Robert De Niro, hein, dans Voyage au bout de l'enfer, est un personnage hanté par les souvenirs traumatiques du Vietnam. Et c'est vrai que la guerre est présente, mais elle est présente de manière psychique, comme une hantise.
À travers la chasse aussi, hein, on recreuse cette imaginaire, voilà, de la chasse.
Et justement, d'ailleurs, la fin de Voyage au bout de l'enfer, c'est un personnage tellement écœuré par les meurtres et tout ce qu'il a vu au Vietnam, qu'il va arrêter de chasser et qu'il va être incapable de tirer sur un cerf. Donc c'est vrai que c'est assez amusant, cette opposition radicale entre le début d'American Sniper et la fin de Voyage au bout de l'enfer. Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, la violence dans Voyage au bout de l'enfer, elle est évidemment traumatique et c'est une violence qui handicape, qui paralyse. C'est le propre de tout le nouvel Hollywood, cette imagerie de violence qui assez souvent, je pense notamment au cinéma de Brian De Palma, va littéralement paralyser le personnage et le rendre incapable d'agir.
Et en même temps, c'est une violence que les Américains ne veulent pas voir. Didier Combo, il y a une mauvaise gestion de ces vétérans-là. Quelque part, les maux psychiques sont relativement cachés, alors même que dans la classe politique émergente, il y a ceux qui ont fait le Vietnam et ceux qui ne l'ont pas fait. Et ça reste un marqueur très très longtemps.
Oui, tout à fait. Mais le retour des combattants du Vietnam était difficile pour la même raison que celui des combattants d'Irak. Ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vu, par les scènes de violence, etc. Mais ils sont aussi traumatisés par le fait qu'ils reviennent dans un pays où la guerre qu'ils ont menée est très impopulaire. Les combattants du Vietnam étaient traumatisés par le fait que la guerre du Vietnam faisait l'objet d'une très forte contestation. Et de la même manière, les combattants qui viennent d'Irak reviennent d'une guerre qui a été aussi très critiquée. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. La violence aux États-Unis, elle est de toute façon consubstantielle aux États-Unis, en quelque sorte. Si vous regardez les grands débats à l'heure actuelle, vous regardez les hashtags, je consacre un chapitre à ces hashtags dans mon livre, les trois hashtags qui ont, les trois mouvements qui ont marqué ces dernières années aux États-Unis, vous avez MeToo, vous avez Black Lives Matter et vous avez Never Again qui est un mouvement qui a été lancé par les jeunes après la fusillade de Parkland dans un lycée. Vous voyez que ces trois mouvements qui structurent la vie politique américaine à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils dénoncent des violences.
Et pour revenir sur la question aussi du cinéma, à la fois dans American Sniper et dans Le Voyage au bout de l'enfer, on retrouve la question du mal physique des fauteuils roulants. Dans cet extrait-là, le vétéran décide de ne pas quitter son hôpital, son foyer de vétéran, Juliette Goffard. Et vous parliez tout à l'heure du stand de tir de Chris Kyle. Il s'agit de ça, hein. Qu'est-ce que l'on fait des vétérans? Comment on les aide? Ce qui peut les réhabiliter d'une certaine manière?
Au fond, il me semble que c'est pas la question d'American Sniper, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autant il y a une forme de dénonciation et de questionnement chez Cimino, il me semble que chez Eastwood, il y a une part de remise en cause de la guerre, où on montre effectivement les personnages mutilés quand même, il y a ce partenaire de Chris Kyle qui meurt défiguré des suites de son hospitalisation. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est le fait que dans American Sniper, le retour, les allers-retours entre les États-Unis et l'Irak sont liés à une obsession d'une mission à accomplir chez Chris Kyle et pas du tout à l'idée d'une récurrence, d'une hantise, du trauma. Je pense que vraiment... D'ailleurs, les images de violence dont le personnage de Chris Kyle est spectateur, je pense aux scènes de boucherie, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle le boucher dans American Sniper, qui découpe les jambes et les mains, qui met sur des étagères.
Personnage irakien.
qui est lié à Al-Qaïda, en tout cas, plutôt.
Dans le film.
Et vraiment, les images perçues par Chris Kyle, elles sont vraiment montrées comme, justement, ce qui va appeler la réaction et le combat du personnage. En fait, ce que je veux dire, c'est que la violence n'est pas montrée comme quelque chose de traumatique, mais comme quelque chose qui appelle une réaction et qui va légitimer le combat patriotique.
Fabien Nuris, c'est la même logique. Ce que l'on retrouve des deux côtés, c'est effectivement l'idée d'enfermement, de ne jamais vraiment sortir de cette guerre, que l'on retrouve chez les combattants du Vietnam et chez les vétérans. Et chez Chris Kyle, il y retourne 4 fois. Il va 4 fois en Irak, alors même qu'il a accompli sa mission d'une certaine manière.
Alors d'abord, l'Irak est un petit Vietnam qui refuse de dire son nom. Voilà. Le Vietnam est indissociable du Watergate, de Nixon et du Nouvel Hollywood et de la prise de conscience par le héros américain, cette prise de conscience éminemment douloureuse qui s'étend de 69 à 77 et c'est « Bon Dieu, mais c'est moi le méchant du film ». Et le blanc voulut devenir indien, ça sera Little Big Man. Et en fait, c'était nos chefs les méchants, et ce seront tous les films du Watergate, et ce seront aussi tous les films du Vietnam. Maintenant, ça c'est la question, la séparation Irak et Vietnam. Non, je voudrais quand même revenir sur ce qui est très intéressant, sur ce que vous dites, sur la notion de guerre, l'enjeu cinématique de la guerre et de la violence au cinéma. En gros, théorie peut-être simpliste, mais vous pouvez faire un film de guerre ou vous pouvez faire un film sur la guerre. Voyage au bout de l'enfer est un film sur la guerre. American Sniper est un film de guerre. La différence fondamentale est liée à ce que le spectateur attend.
Sur la guerre, ça veut dire que c'est la dimension critique qui
change. En gros, c'est très simple. Si je vois un film sur la guerre, je rêve que les combats s'arrêtent ou qu'il n'ait pas lieu. Ça va s'appeler Johnny s'en va en guerre, ça va s'appeler Voyage au bout de l'enfer. Et ces scènes sont des horreurs, elles me traumatisent, je ne veux pas les voir, je veux qu'elles s'arrêtent. Si c'est un film de guerre, alors la guerre c'est beau, c'est chouette, c'est un spectacle, et la plus grosse baston est à la fin. Et ça veut dire que la guerre, et d'ailleurs Eastwood l'a dit lui-même, « We have excellent action pieces in the film. » Action pieces.
Donc ça veut dire des cinéma d'action, comme le ferait la fiction.
Mais évidemment. Et qu'est-ce que l'action ? Si vous voulez, dans la vie, il n'y a pas d'action. Dans la vie, il y a de la violence. L'action est une érotisation cinématique de la violence. Et donc, c'est bien là que moi, j'ai eu un problème avec ce film-là. Eastwood, qui pourtant a brillamment raconté la guerre, par exemple, dans Mémoire de nos pères, ou dans Lettre d'Iwo Jima, qui a attesté de la nécessité du champ contre champ, qui a attesté de la nécessité du point de vue de l'ennemi, qui est, somme toute, lui aussi mon frère d'armes, en fait, et qui meurt dans la même bataille. Il avait fait tout ça, mais pas là. Là, nous avons un film de guerre qui prétend être un film sur la guerre. C'est-à-dire que la scène de « Je flingue un gosse », c'est un teaser, c'est un bon suspense et c'est un kiff. Les bastons, le duel avec le super sniper champion olympique, c'est un kiff, c'est un spectacle. La tempête de sable et la dernière baston, I'm coming home baby, c'est un gros kiff, c'est le meilleur action piece de tout le film. Mais avec ça, on est censé aussi avoir le repos du guerrier comme justification de tout le reste. Ce qui nous amène à la place de Taya Kyle dans le film et dans la véritable histoire
de Chris Kyle. L'épouse de Chris Kyle. Alors comment est-ce que vous faites, vous, justement Fabien Nuri, pour échapper à cette esthétisation, on va le dire, de la violence, et pour représenter la guerre autrement? Est-ce que ça passe beaucoup par des ellipses, par le fait de ne pas tant que ça représenter la guerre, mais représenter la parole, les prises de parole?
Déjà, on a commencé par représenter 255 cercueils, juste pour qu'on voit ce que c'est.
Alors au tout début, il faut expliquer ce que c'est. Il y a des cercueils rouges et des cercueils gris.
Bah oui, parce qu'il y a les confirmés et les non confirmés. Et en fait, je veux qu'on voit ce que c'est que 160 ou 255 cercueils. Et accessoirement, j'aimerais bien qu'on voit ce qu'est une différence de 95, s'il vous plaît. Ensuite, on a représenté 16 cercueils. Ça, c'est le film. Je pense que la différence est éloquente. C'est aussi comme ça qu'on en parle. Et pour ne pas avoir à représenter la guerre, sinon moi j'aime les films de guerre accessoirement, ça me dérange pas du tout les expositions.
Mais c'est de la fiction.
Mais c'est de la fiction. Là, en l'occurrence, pour ne pas avoir à le faire, nous avons représenté le tournage du film et le moment où Bradley Cooper, dans le tournage, découvre, selon son conseiller militaire, le véritable pouvoir du sniper. C'est-à-dire que le cascadeur est à l'autre bout de la rue, il le tient dans son viseur, et comme Clint Eastwood est un bon réal, au moment où Bradley appuie sur la détente, le cascadeur tombe parce qu'il a été prévenu. Et Bradley fait « Wow !» parce que c'est quand même pas comme une cible. On a vu le gars tomber. Et c'est l'essence du pouvoir du sniper, et c'est aussi l'essence de son intérêt cinématique et même narratif depuis le dernier des Mohicans, en fait.
Didier Combeau, ce que l'on remarque, c'est qu'à travers l'histoire de Chris Kyle, on a toute une histoire américaine du produit en lui-même et du fait divers. C'est-à-dire, le fait divers alimente la presse, les débats médiatiques, politiques, mais il devient objet best-seller, il devient objet hollywoodien. On retrace toute cette histoire-là, finalement, l'histoire industrielle du fait divers est la même que l'histoire de la légende.
Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est les faits divers font l'objet d'un même traitement lorsqu'ils ont une signification morale, en tout cas. Et ce qui est intéressant dans le film, et je reviens sur ce que vous disiez, la justification morale ne fait aucun doute dans le film American Sniper, à tel point que lorsqu'un camarade meurt à l'hôpital, ce camarade dont vous parliez, qui est défiguré, voilà, Biggles, qui meurt à l'hôpital, à son enterrement, sa mère lit une lettre qu'il a écrite où il explique qu'il a perdu la foi et qu'il ne comprend plus l'objet de cette guerre. Et il y a une discussion ensuite entre Chris Kyle et son épouse dans la voiture, et elle lui demande ce qu'il a pensé de la lettre. Et ce qu'il dit, c'est que il est mort parce qu'il avait perdu la foi, parce qu'il avait perdu la justification morale.
Alors là, il y a peut-être une habileté quand même de Clint Eastwood, c'est d'apporter la contre-critique, Juliette Goffard, avant même qu'on la lui apporte. Hein, c'est-à-dire, est-ce que cette guerre serait pas au final un peu injuste, en tout cas il a douté, le soldat.
Oui, on sent que, bah, comme le disait Fabien Nury, c'est quand même un cinéaste qui a quand même eu attaché très souvent de l'importance à montrer le point de vue de l'autre camp. Et effectivement, notamment la scène des funérailles, c'est vraiment le meilleur exemple.
Il désamorce.
Alors, il la désamorce, mais en même temps, il y a cette idée qu'il veut faire exister l'autre point de vue. Il y a des moments qui sont très beaux, d'ailleurs, dans cette scène, où on voit le profil des veuves éplorées et le profil des soldats qui tirent leur salve d'honneur. Où on voit que finalement, la réalité des funérailles donc de Biggles, elle est plutôt complexe, puisqu'il s'agit à la fois de montrer la souffrance et le scandale de ces morts pour une guerre dont on n'est pas absolument sûr de la nécessité et du sens. Et puis, ce personnage de Chris Kyle qui est complètement convaincu par sa mission. Et ça me semble typique des derniers films d'Eastwood, de cette tétralogie, hein, du héros américain et du fait divers, où justement le personnage crée une dissonance à lui seul par rapport à son environnement.
On l'entend, cette scène, voilà, avec la mère qui rend hommage à son fils.
Voilà, où elle lit... c'est les pouces, je crois. Bon. Elle lit la lettre, effectivement.
On se demande si la croisade n'est pas injustifiée.
Mais ce qui est mis en avant, c'est pas les doutes de Biggles, c'est quand même la certitude de Chris Kyle dans cette scène.
Ah non, non, non. Non, justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Eastwood, c'est bien le seul à ne pas douter. Et c'est ce que montre en permanence le film, c'est que, par exemple, il
vous
croise...
Vous dites Eastwood, mais c'est Chris Kyle, vous voulez dire. Hein, c'est
le personnage créé par Eastwood.
Oui, oui, c'est ça.
Le personnage de Chris Kyle, bien sûr, par exemple, c'est... il va croiser son petit frère, qui est complètement apeuré par la guerre. Et il y a ce regard, ce champ contre champ, où le personnage de Chris Kyle reste à distance et ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on a la même chose, par exemple, dans le cas Richard Jewell ou dans Sully, ce sont des personnages qui sont convaincus d'avoir bien agi, alors que le monde entier autour d'eux est en train de remettre en cause leur certitude.
Et de douter.
There was a man not long ago, he was nice but kind of slow, his hair was long, his name was Joe. I was young, he was sweet, and my heart would skip a beat every time that we would meet. Hey Joe, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out in the sun, but hey Joe, turn your headlights on. There was no place he hadn't been, no face he hadn't seen. All I'd done was turn 19. He took me driving through the night, and I remember it just right. Told me you loved me, come on in, light. Hey Joe, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out having fun, but hey Joe, turn your headlights on. Every story has its end. You love me as a friend, and as a lover, you took my hand. For me, I have loved you all my life, day and night from 9 to 5. But age old, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out and you're here. Light in your eyes will have left and gone. So before the day is done, your headlights, better be on.
Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
You are the most lethal sniper in U.S. history, and you have the medals to prove it. 5 bronze stars, 2 silver stars, and all of that. What struck me in a book, though, is that you considered the people you were killing, the Iraqis you were killing, quote-unquote, savages.
The people I was killing, not just Iraqis.
Why yes. did you consider the enemy savages?
From their actions, the way they live day to day, as far as the violence they commit on American troops, the beheadings, the rape of innocent villagers and townspeople that they go into just to intimidate them. They live by putting fear into other people's hearts, and civilized people just don't act that way.
You were so effective in Iraq that they put $20,000 on your head. If one of them had killed you, they would have been paid $20,000. Do you believe that they considered you a savage?
I'm sure they did. Honestly, I don't know, and I really don't care.
Alors, c'est une interview du vrai Chris Kyle qu'on entend. Hein. Il était sur Fox News chez Bill O'Reilly et il est en train de dire, voilà, Bill O'Reilly lui dit, vous êtes le sniper qui a tué le plus de gens. Vous dites vous-même que les Irakiens sur place qui se sont affrontés à vous étaient des sauvages. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, ils pensent que vous étiez un sauvage et votre tête a été mise à prix? Quelques mots peut-être, Fabien Nury, sur le fait que vous ayez mis en scène dans la bande dessinée ces scènes-là télévisées sur Fox News, ces dialogues-là, dialogues réels, qui font partie des matériaux documentaires de la bande dessinée.
Oui, on a exploité plusieurs interviews, dont 3 interviews clés de Fox News, une de Chris Kyle avant sa mort et 2 de Taya Kyle qui, après sa mort...
La veuve de Chris Kyle.
Elle est devenue dépositaire de la légende et a ensuite été le principal, la cheville ouvrière de l'exploitation commerciale de la légende. Donc j'ai utilisé ces interviews simplement parce que ce que ces gens disent, je peux pas inventer mieux. Et aussi, la deuxième chose, c'est que ces gens sont très conscients de la légende en cours. Et de son poids et de son prix. Et ils se sentent obligés d'incarner ce qu'on attend d'eux. J'en suis persuadé au moment où Chris Kyle parle, j'en suis persuadé quand Taya parle, la plupart de ces gens ont conscience de ce qui est en train de se construire. Et c'est particulièrement prégnant dès lors que donc Chris Kyle est tué. Alors à partir de là, la légende s'auto-alimente, elle s'auto-nourrit. Sa veuve vient faire la promotion du livre pro-armes qu'il écrivait de son vivant. Le développement du film est en cours Donc le film...
Et il n'a jamais été prévu qu'il s'arrête d'ailleurs, hein, le,
absolument
le film
pas.
D'essayer de son vivant.
Au contraire, on passe de David O. Russell à Spielberg, puis à Eastwood. Franchement, c'est une montée en gamme. Et donc, le développement du film, à qui il arrive quelque chose d'assez proche de Zero Dark Thirty, à ceci près que c'est pas le méchant, mais le héros qui est mort, en tout cas, le film trouve sa fin. Christian était une figure beaucoup plus polémique de son vivant qu'après sa mort. Après la mort de Christian, vous avez
sa mort l'a héroïsé. Il meurt jeune, hein, il a 39 ans ou 40 ans.
38 ans.
Au moment de
c'est
sa mort.
Un assassinat en plus. Il essayait d'aider des camarades de combat et il est tué de là par un lâche Bob Ford. Ça, c'est ce que retient la légende. C'est dommage qu'on prenne pas le temps de dire qui était aussi à dire.
Alors c'est pour ça qu'on va prendre justement le temps de le faire maintenant. Fabien Nuri, vous, dans le parti pris de la bande dessinée, vous opposez finalement, en tout cas vous mettez en scène ces deux histoires qui sont intriquées, à la fois l'histoire de Chris Kyle, de sa légende et de sa mort, mais aussi l'histoire d'Eddie Rose qui est lui aussi une victime, en tout cas de cette guerre-là, mais qui est aussi le meurtrier. Donc finalement, c'est deux histoires ambivalentes qui sont mises en scène.
Oui, en fait, c'est très simple. Chris Kyle est tué par un fan. Il est tué par sa propre légende. Il est tué par un fan, par quelqu'un qui l'idolâtrait. Donc on voit bien que la légende est consubstantielle au crime. Elle est même préalable au crime. Et d'une certaine manière, elle en est le mobile. Or, voulant abattre la légende pour écrire la sienne, Eddie Rouse ne fait que la satelliser.
Oui, mais ça, c'est votre parti pris
non.
fort. Alors peut-être.
Oui, c'est le parti pris, mais sauf que les funérailles, écoutez, 7000 personnes présentes, diffusion à la télé nationale, un convoi de 200 bornes et la cérémonie, je vous jure que ça propulse pas mal de légendes au firmament, ça. Je vous assure que quand le développement Spielberg qui arrive dans les 3 mois qui suivent, c'est pas anodin. C'est quand même. Et quant à Eastwood, qui y a-t-il dans le cinéma américain de plus légendaire qu'Eastwood? On a l'impression que toute sa vie et sa carrière...
Mais Spielberg se retire aussi du projet.
Oui.
Au bout de 3-4 mois.
A priori, pour raison... Alors, raison officielle, raison économique, raison budgétaire. Et Eastwood est, c'est vrai, un réalisateur beaucoup plus économe que Spielberg. Eastwood a fait ce film pour moins de 60 millions de dollars, alors que Spielberg en aurait probablement pris 120. On peut aussi supposer, comme c'est Spielberg qui a inventé l'antagoniste, c'est Spielberg qui invente le sniper opposé dans le film, on peut aussi supposer que Spielberg y avait émis le souhait d'avoir un point de vue plus nuancé. Je sais pas si c'est économique ou si c'est une divergence artistique.
Vous, dans le scénario et dans la graphie de la bande dessinée, vous utilisez tout l'imaginaire patriotique, les drapeaux, les soldats, les uniformes, les couronnes et les cercueils que l'on retrouve aussi, qui est la dernière image du film American Sniper. Hein, c'est,
La célébration, c'est le sujet. Il faut savoir que Bob Ford, après avoir tué Jesse James, est allé rejouer le crime sur scène. Là, c'est Taya Kyle qui ira rejouer des American Sniper Shootout, prenant elle-même la place de son mari et rejouant ses tirs en Irak avec une pétoire ultra-moderne. On est vraiment au temps de Buffalo Bill et de son cirque.
Didier Combeau, là, on retrouve cette idée de la veuve. Alors, la veuve de guerre, la veuve de, américaine. D'ailleurs, le présentateur de Fox News prend sa défense publiquement puisque Jess Ventura lui fait un procès en disant « il attaque une veuve de guerre ». Il y a une dimension sacrée qu'on retrouve aussi à travers cette image-là.
Au même titre que pour les combattants, bien sûr. S'en prendre à une veuve de guerre, c'est quand même très difficile. Donc
avec un imaginaire encore viril, hein, très en place, une différenciation des sexes très forte.
Ah oui, tout à fait. Oui,
le western n'est pas loin.
Non, effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, le rôle des femmes comme le rôle des hommes dans les westerns est très genré. Hein, on dirait aujourd'hui, les femmes souhaitent toujours que les combats s'arrêtent, alors que les hommes, si vous voulez, on va avoir peut-être une attitude plus féminine qui va correspondre à la négociation, à la diplomatie, et puis une attitude plus masculine qui va correspondre à la guerre. Et c'est ce que l'on retrouve dans beaucoup de westerns et dans beaucoup de films d'action américains.
Alors un petit mot quand même sur un autre débat que vous soulevez dans la bande dessinée, Fabien Nuri, et sur lesquels j'aimerais qu'on dise un mot, c'est la question de la santé mentale, prise en compte ou pas par la justice américaine. L'homme qui tue la légende, il est victime d'un syndrome PTSD. Il est sous l'emprise d'alcool et de drogue. Il tue. On lui met des armes entre les mains. Chris Kyle lui met lui-même des armes entre les mains et il devient meurtrier. À aucun moment la question de l'irresponsabilité est vraiment posée.
C'est pourtant une grande question aux États-Unis, puisque dans les réformes pour le contrôle des armes à feu, la question de la santé mentale est tout à fait centrale, puisque le but de la législation américaine, c'est de laisser le droit aux armes aux gens qui sont sains d'esprit, mais d'empêcher les gens qui auraient des problèmes mentaux d'y accéder, ce qui ne fonctionne pas, bien sûr, parce que c'est trop compliqué. Et puis, on voit dans les débats actuels, les débats sur la police, par exemple, un assez grand nombre de bavures policières sont dues au fait que la police a affaire à des gens qui ont des problèmes mentaux, et les policiers ne sont pas formés pour traiter ces problèmes mentaux. Donc ils traitent les problèmes mentaux par la force. Et donc tout le mouvement auquel on assiste en ce moment, qui est le mouvement d'abolition des polices et de defunding des polices, hein, de limitation des crédits des polices, le but ce serait de rediriger une partie des crédits qui sont donnés à la police vers des institutions de santé mentale.
Alors c'est peut-être la dimension
cruellement défaut.
C'est peut-être la dimension la plus engagée de votre album L'homme qui tue à Chris Kyle, Fabien Nury, c'est l'épilogue.
Oui.
Alors peut-être quelques mots sur cet épilogue, la manière dont vous traitez la question du vrai mobile du crime d'Eddie Rose.
Oui, et c'est parce qu'elle n'est pas traitée dans le procès. L'enjeu du procès, c'est l'irresponsabilité mentale, pénale, de Eddie Ray Rouse. Mais il faut quand même préciser un truc. Ce procès se déroule 2 mois après la sortie du film. Tous les jurés ont vu le film. La cérémonie des Oscars a lieu pendant le procès 2 jours avant les réquisitoires.
Ça vous le dites, hein, tout ça, dans l'album.
Ouais. Et la veuve quitte le procès pour aller aux Oscars. Les jurés peuvent la voir à la cérémonie des Oscars. Et le lundi, elle est de retour. Ça mérite quand même d'être signalé. Il y a un procès médiatique. Ce procès n'a lieu que parce que l'accusation et la défense n'ont pas pu trouver de territoire d'entente. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il aurait plaidé coupable, évidemment qu'il y avait des circonstances atténuantes, évidemment que le PTSD n'est pas une justification pour un meurtre. Ça n'en est pas une. Des centaines de milliers d'Américains sont victimes de PTSD, et tous ne vont pas commettre des meurtres pour autant.
Sauf qu'à travers ça, aurait pu se poser d'autres questions, qui est celle de la
diagnostic, l'irresponsabilité, etc. Mais le procureur, il n'était pas comme ça. Le procureur, lui, il a estimé que peut-être que le vol du pick-up de Chris Kyle était un mobile potentiel aussi. Il n'était pas, voilà. Mais
ce qui est sûr, c'est que cet imaginaire d'un ancien soldat alcoolisé, drogué, qui était rentré dans une sorte de vie très compliquée face au héros qui semble, et ça c'est un élément qui est traité, peut-être on pourrait en dire un mot, Juliette Goffard, qui est traité dans American Sniper, Chris Kyle dans la légende mise en scène par Clint Eastwood, il se remet seul de son pitié, se dit, il va mieux.
Oui, c'est cool.
Grâce à sa femme, à l'amour de ses enfants.
Oui, complètement.
C'est la légende.
C'est vrai que quand j'ai lu la bande dessinée de Fabien Nury, moi je suis tombée des nues, hein, parce que quand on ne connaît que la version d'Eastwood, effectivement, il y a vraiment une ellipse très forte au niveau du PTSD qui est suggérée, mais à travers de tout petits détails, et qui tient presque de l'obstacle que le personnage doit surmonter pour mener à bien sa mission. C'est presque ça, puisque on voit que le PTSD progresse d'une mission à l'autre. Il y a ce moment où le personnage commence à sentir mal parce qu'il va à nouveau tirer sur il risque de tuer sur un autre enfant. Et puis il y a cette scène assez forte où on pense que le personnage regarde une émission irakienne sur le conflit, et on découvre qu'en fait, il regarde un écran vide. Donc on a ces petits moments, ce petit saupoudrage autour du PTSD.
Des résurgences de la guerre, du conflit, quand il est rentré aux États-Unis.
Voilà, l'idée que quand même, c'est quelque chose qui existe et que le personnage supporte et surmonte d'une certaine manière, ça participe en fait de son mythe et de son héroïsation. Et pour terminer, c'est vrai que quand on lit la bande dessinée de Fabien Nury, c'est assez choquant. Le grand moment où le PTSD du personnage se révèle, c'est lorsqu'il attaque un chien. C'est quand il saute sur un chien dans une scène de barbecue. Et c'est vrai qu'il y a un décalage très fort, mais bon, je laisse Fabien Nury.
Fabien Nury, il y a une autre dimension très différente dans la bande dessinée. Enfin, tout est assez différent d'ailleurs, mais c'est l'importance de la femme de Chris Kyle, c'est-à-dire qu'elle a une sorte de seconde vie à partir du moment où elle reprend le flambeau. Élément complètement évacué du film de Clint Eastwood, elle est simplement la veuve éplorée. Là, elle a une deuxième vie qui est une vie de businesswoman.
Oui, elle a un rôle très important dans le film. C'est le repos du guerrier, c'est le courage de la veuve. C'est-à-dire que le film donne à voir exactement l'image mise en place par Taïa elle-même dès la cérémonie des funérailles.
Mais vous montrez la businesswoman, celle qui
bien
va
sûr, parce que moi je montre que
prendre les armes.
La cérémonie des funérailles en soi, intrinsèquement, fait d'elle une célébrité. À partir de là, elle est dépositaire de la légende. Elle est aussi la gardienne du temple. Elle est l'ayant droit de Chris Kyle. Et donc, elle est une des personnes qui vont toucher des dividendes sur toutes les exploitations commerciales de la légende. Je voudrais quand même rappeler plus d'un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard de dollars de box-office. Vous pourriez calculer la rentabilité par Irakien mort.
Didier Combo, un dernier tout petit mot sur le contexte préélectoral, hein, c'est-à-dire que cette bande dessinée-là, cette histoire-là résonne particulièrement dans le contexte actuel préélectoral, celui de ces légendes et la question des armes.
Ah oui, tout à fait, oui, oui. La question des armes n'est pas trop apparue dans la campagne à l'heure actuelle parce que on est plutôt en ce moment sur les questions de violence policière.
Qui est pas complètement indifférente de ça, hein, le fait de soupçonner des gens armés, etc.
Ce sont deux questions qui sont liées, mais les violences policières sont appréhendées sous l'angle du racisme. Et l'angle de la violence est un petit peu atténué du coup, parce que les policiers américains ne tuent pas que des Afro-Américains, ils tuent aussi les trois quarts des gens tués ne sont pas Afro-Américains. Et la grande question, c'est effectivement la circulation des armes dans la population américaine, qui explique entre autres ces violences policières.
Merci à tous les trois, Fabien Nury, Didier Combo et Juliette Goffard. Je rappelle le titre de l'album, L'homme qui tua Chris Kyle. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau.
Alors nous voici au kilomètre 252 depuis la source de la Seine, qui est notre point de départ. Et à ce point géométrique du kilomètre 252, on voit devant nous la sombre façade classique du lycée Condorcet. Une façade qui, paraît-il, est due à Brognard, qui a été également l'architecte de la Bourse. Nous sommes donc derrière la gare Saint-Lazare, dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, un peu à l'extrémité de ce quartier de l'Europe, qui a été celui de Caillebotte, le peintre, et celui d'Apollinaire, qui habitait rue de Naples. Dans ce lycée qui est en face de nous, ont enseigné des professeurs illustres, comme Émile Chartier, dit Alain, qui est grand professeur de philosophie du début du siècle, Jean Beaufret, plus récemment, qui a introduit Heidegger en France, et puis Édouard Daladier, qui a été le président du Conseil des accords de Munich et qui enseignait ici l'histoire en 1919. En 44, mon père y a été l'élève d'un autre professeur de philosophie célèbre qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre avait la réputation de ne pas du tout travailler et de consacrer ses heures de cours de philosophie à corriger les épreuves de son livre. Et c'est ainsi que la classe à laquelle mon père appartenait lui a fait en 44 dédicacer Les Mouches par dérision. Et ce qui fait que maintenant ma bibliothèque s'enorgueillit d'un exemplaire des Mouches avec cette dédicace de Sartre qui prête à rêver, puisqu'il a simplement écrit à Sureau, souvenir de 1944. On se demande ce qu'ils avaient fabriqué ensemble en 1944. L'histoire oblige à dire que Sartre n'avait pas fait grand-chose en 1944. Si je me suis placé devant Condorcet, c'est pour vous parler d'Isabelle Adjani. Alors pourquoi Condorcet? Il y a plusieurs raisons. Deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, c'est le quartier de mon enfance et c'est à la fin de cette enfance que je suis tombé amoureux de l'image animée d'Isabelle Adjani, exactement comme les esthètes dans Proust tombent amoureux d'un tableau, d'un portrait du 18e. Et mes sentiments à moi ont été plus violents à l'époque après avoir vu La Gifle, le film de Claude Pinoteau, qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours. Dans La Gifle, et c'est la deuxième raison, son père, qui est joué par Lino Ventura, joue le rôle d'un proviseur du lycée ou un professeur du lycée Louis le Grand, mais que je ne sais pourquoi j'imaginais à Condorcet. Puis il y a une autre raison qui est une raison géométrique, c'est-à-dire que si on triangule le lycée de Courbevoie où elle a fait ses études, la Comédie Française où elle a fait ses débuts et les Buts de Chaumont où je rêve que Breton aurait pu aimer la voir apparaître. Et bien si on triangule ces trois éléments, on tombe exactement ici devant le lycée Condorcet. Isabelle Adjani, c'est la déesse des Batignolles. Elle m'est apparue dans le Paris pluvieux des années 70. En 70, l'homme français était assez différent de l'homme français d'aujourd'hui. Il avait deux versions différentes. Il avait une version intellectuelle et une version instinctive. Du côté instinctif, Lino Ventura, dans La Gifle, donnant sa fameuse gifle, ou bien dans Le Silencieux, parcourant la France avec les espions soviétiques aux trousses, dans la figure du physicien Clément Thibert. Et puis de l'autre, l'homme français était intellectuel avec Guyotta à Cerisy, au moment des colloques de Cerisy, et Jacques Rivette dans Céline et Julie vont en bateau, Cinémathèque. Et il faut dire que à certains égards, les années 70 étaient tout aussi ridicules que les années actuelles. Le ridicule ne tuait pas plus en 1970 qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi, quand on regarde maintenant la bande-annonce de deux ou trois choses que je sais d'elle, on voit dénoncer l'inégale répartition des salles de bain dans la population et, je cite, « la Gestapo des structures ». C'était l'époque où les pères dominicains insultaient Simon Leys en Une du Monde. Simon Leys qui voyait Mao pour ce qu'il était, moitié Staline, moitié Uburois. Mais quand même, en 70, il y avait cette espèce de rêve de liberté, et puis un rêve aussi néo-spirituel, auquel concouraient les auteurs de musique folk de l'époque, Simon et Garfunkel, Yves Simon pour les Français, ou Leonard Cohen, par exemple. Et 70, ce sont surtout les débuts d'Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, on lui a fait payer son destin, au fond. Elle est née en 55, c'est-à-dire 10 ans après la fin de la guerre, mais au début de la guerre d'Algérie. Elle est la fille d'un ancien tirailleur algérien et d'une Allemande, ce qui fait que pour les Français, elle porte le souvenir de deux défaites. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver l'origine mystérieuse de la rumeur qui lui a attribué la maladie du sida dans les années 80. C'était au fond ma génération qui était née dans le souvenir de plusieurs hontes. La Wehrmacht sur les Champs-Élysées, la collaboration d'une large part de l'élite française, mais aussi la torture en Algérie. Et ce qui fait que les enfants de la génération Adjani, qui est la mienne, ont rêvé avec Mehdi, ils ont rêvé sur Mehdi, l'enfant réfractaire de Belle et Sébastien, qui s'en va dans la montagne pour racheter un honneur perdu. Et aussi avec ce Thierry Lafronde, qui assez curieusement présentait un maquis solonio habité par des FTP médiévaux, ce qui était une représentation décalée mais assez incroyable des tourments que la France venait de connaître pendant l'occupation. Je me suis souvent demandé, longtemps, ce qui mettait Adjani à part, avant de comprendre qu'elle n'incarnait pas le sujet ou l'objet de l'amour, mais l'amour lui-même. Dans la plupart de ses films, elle est à la fois l'héroïne et le cœur antique. Et c'est cette étonnante capacité d'incarnation qui avait fait dire à François Truffaut « Je n'ai jamais senti un désir aussi impérieux de fixer un visage sur une pellicule. » Et d'où aujourd'hui cette formidable impression de solitude. Adjani a eu de grands partenaires masculins, mais elle ne laisse aucun souvenir de couple. L'héroïne qu'elle incarne dans l'amour, ça n'est pas la femme amoureuse, c'est la passion elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a pris, au fond, sans trop changer, les poses, les masques, les habitudes des décennies qu'elle a traversées sans que rien n'altère sa puissance de représentation. Elle s'est prêtée à Truffaut, comme à Pinoteau ou à Becker, mais sans jamais s'abandonner. Elle a été tour à tour la madone des chambrées dans L'été meurtrier, la femme de luxe découvrant le métro, comme Duras l'Indochine dans Subway dans les années 80. Elle est sortie des tableaux où l'on voit Charcot au milieu des hystériques de la Salpêtrière pour figurer à la fin dans une toile d'héros, puis présenter la journée de la jupe ou passer dans Capitaine Marlowe. Il subsiste en Isabelle Adjani quelque chose d'absolument inaltérable. Et peut-être au fond, son jeu, et c'est peut-être en cela qu'il me touche, remonte-t-il aux années 1920, quand le jeu du muet colore les premiers films où l'on commence à parler. D'où cette expressivité si particulière à Isabelle Adjani et qui la tient à égale distance des deux manières différentes de compter au cinéma. Soit l'identité à soi-même, comme Jouvet, comme Al Pacino, comme Tom Hanks, soit la métamorphose permanente, comme De Niro, comme Brando, comme Strip. À la voir, au fond, un film après l'autre, et sur cette corde raide qui est tendue entre les années, on pense à l'extraordinaire Anne Harding dans le Peter Ibbetson de Hathaway, où les surréalistes ont vu le triomphe de l'amour. Et c'est alors qu'on s'aperçoit que son nom est à peu de choses près l'anagramme de Nadja, l'héroïne d'André Breton. Là est l'essentiel peut-être d'Isabelle Adjani, pour moi en tout cas, dans cette capacité à hanter, et peu importe les films ratés auxquels elle a pu participer. Nadja consultait, on le voit dans le livre de Breton, Madame Sacco, voyante rue des Écoles, et Adjani consulte Yagel Didier. Mais elle relève autant de Nosferatu, le grand film muet de Murnau des années 20, que les surréalistes ont adoré, que de Possession, le film dans lequel elle a tourné. Et ceux qui ont aimé Musidora, La Vampe de Judex, l'aurait aimé aussi. Musidora, de son vrai nom, s'appelait Jeanne Roch. Elle a épousé un cardiologue qui, lui, s'appelait Clément Marot, comme le poète, et elle a collaboré à la fin de sa vie à la Cinémathèque de Langlois. La barque de l'amour, disait Mayakovsky, s'est brisée contre la vie courante. Aujourd'hui, je me demande si Adjani, qui est notre étrangère, ne ressemble pas à cette France insaisissable que nous aurons aimée, poursuivant la chimère au péril de sa vie et au mépris de toute sagesse. Ainsi en va, n'est-ce pas, disait Breton, du monde extérieur, cette histoire à dormir debout.
Et on retrouve Françoise Sureau à partir de demain. On se retrouve aussi pour une nouvelle grande table d'été à 12h45 consacrée aux prisons autour de l'exposition du photographe Maxence Riflé. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Alex Dang. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.